de plein et de délié. Un œil sur le cadran attaché à la base. Sur du papier carcan, nous sommes partis d'une case. T'es d'accord? On y va, on s'en sort. Je ne sais pas. T'es d'accord? On y va, on s'en sort. Je ne sais pas.
Mon blaze est un numéro, tu comprendras peut-être le jour où tu seras guéri, héros. Les idéaux des jeunes n'ont pas de déo pour se faire sentir. Et ouais, la vie met au sèche-chum, alors insiste avant de partir. Tout le monde s'accapare partout, vire ton sac, y'en a partout. Dans la rue, y'a que des casse-coups, donc monte le son et casse tout là. Je suis en vrac comme Pactou, car je sais bien que t'as pas de sous. Vas-y, recommence, efface tout, fais du fric et amasse tout. Faudrait se remettre en question, arrêter de mettre les pieds au charbon. Tout pendant que les grands patrons assis eux boivent du bourbon. Je peux parler de la tolérance, car tu sais bien que je le suis, ils abusent de moi.
Vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 8h au Caire et à Beyrouth.
RFI Matin.
Et 6h en temps universel. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, les 12 jours d'une guerre qui n'a jamais été aussi intense.
Au lendemain d'un mardi noir, selon Washington, qui assure que l'Iran a été frappé comme jamais hier. Une guerre qui pourrait durer, selon Israël. Une guerre aux lourdes répercussions économiques, comme l'ont amèrement constaté les Égyptiens à la pompe ce matin. Guerre impopulaire aussi aux États-Unis. En témoigne ce scrutin partiel dans l'État de Géorgie, vous l'entendrez. Les États-Unis par ailleurs, qui mettent fin au programme de protection temporaire des Somaliens sur son sol, ce qui inquiète Mogadiscio. Nous serons aussi dans le journal en France, J-4 avant les élections municipales. Deuxième signalement, deuxième inquiétude d'une possible ingérence étrangère dans cette élection. Alerte donnée cette fois à Marseille. 15 ans après Fukushima, le Japon veut rassurer sur la qualité de ses produits venus de la région et où le poisson de Fukushima est servi jusque dans les cantines de la capitale. Et puis on n'oublie pas les terrains, carton de l'Atlético et du Bayern en Ligue des Champions, carton de Bam Adebayo sur les parquets de NBA. Victor Misistrano nous raconte tout ça dans le journal des sports dans un quart d'heure.
Jour de guerre, ces dissonances entre Washington et Tel Aviv.
Qui n'ont visiblement pas accordé leur violon. D'un côté, le président américain Donald Trump estime que cette excursion, comme il l'appelle, va bientôt prendre fin. De l'autre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, porté par une opinion publique très favorable à cette guerre dans son pays, appelle à briser les os de l'Iran et promet qu'Israël n'en a pas terminé. L'Iran qui a vécu le pire jour de frappe depuis le début de la guerre, selon Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis. Téhéran qui promet d'appliquer la loi du talion, ce sera œil pour œil, dent pour dent, a répliqué le président du Parlement. L'Iran qui a revendiqué cette nuit la plus violente et la plus lourde vague de frappe depuis le début de la guerre. Un conflit qui pourrait durer, estiment eux en coulisses les militaires français. Explication Franck Alexandre.
En un peu plus de 10 jours de conflit, les forces iraniennes auraient lancé 2600 drones Shahed et 1118 missiles balistiques, une combinaison des deux pour noyer dans les nuées de drones des missiles plus destructeurs. Reste qu'une immense majorité de ces drones sont abattus, même s'il n'est pas possible de faire un décompte précis. Les pays du Golfe font feu de tout bois avec des missiles intercepteurs, des tirs canons, des avions de chasse ou des tirs depuis les hélicoptères. Au final, notent les militaires français, très peu de drones passent. L'attrition serait également très élevée pour les rampes de lancement des missiles balistiques iraniens. Au nombre de 460 au début des frappes, il n'en resterait plus, selon des sources israéliennes, que 150 en état de marche. Mais Téhéran mise sur une doctrine mosaïque, précise et politique, afin de paralyser l'économie de la région et au-delà. Le régime iranien, souligne de haut gras des Français, fait aussi le pari du temps long, car si ses défenses s'amenuisent, les soutes américaines, composées d'armements high-tech, elles aussi se vident rapidement et les recompléter pourrait être difficile.
Washington qui n'est pas à court de munitions et qui a déclaré avoir détruit 16 navires iraniens poseurs de mines dans le détroit d'Ormuz. Autre événement de la nuit, les gardiens de la Révolution disent avoir ciblé une base américaine au Koweït, alors qu'Israël a de nouveau frappé Beyrouth, le gouvernement libanais qui fait désormais état de 760 000 déplacés dans le pays selon son dernier bilan, et près de 500 personnes tuées dans des bombardements israéliens depuis début mars.
12 jours de guerre, Martin, qui ont complètement déboussolé les cours du pétrole.
Et oui, l'Agence internationale de l'énergie qui propose dans ce contexte un recours sans précédent aux réserves stratégiques de pétrole. Le but est d'enrayer la flambée des prix, alors que le prix du baril s'est momentanément envolé au-dessus des 120 dollars cette semaine. Il est retombé cette nuit à 88 dollars. Dans un marché extrêmement volatile, des conséquences économiques visibles, notamment en Égypte, l'un des seuls pays de la région épargné par la guerre, mais pas épargné au moment de se rendre à la pompe. Une bien mauvaise surprise pour les usagers égyptiens. Martin Dumas-Primbault.
Ce mardi, les Égyptiens se sont réveillés avec une hausse soudaine des prix à la pompe. Jusqu'à 30% pour le gaz naturel dont sont équipés de nombreux véhicules.
Je suis chauffeur, donc je dois adapter mes tarifs. Et ce n'est pas évident avec des clients qui ne comprennent pas toujours.
Pour faire son plein, Youssef a été obligé de tourner avant de trouver une station ouverte.
La hausse a eu lieu cette nuit. Beaucoup de stations ont fermé, d'autres continuent de travailler. On a du mal à y voir clair.
Une décision du ministère du Pétrole et des Ressources pour faire face à la flambée générale des prix de l'énergie. C'est la troisième hausse en un an.
En gros, le gouvernement essaie d'éviter de payer une subvention pour le carburant à cause des conditions fixées par le FMI concernant le déficit budgétaire.
Mohamed Ramadan est économiste à l'EIPR, une ONG égyptienne de défense des droits de l'homme.
Les prix de la nourriture vont augmenter, comme le coût des transports, donc cela va créer une inflation localement. Et si le contexte extérieur continue de se détériorer, nous aurons sûrement besoin d'une assistance financière.
Or, les pays du Golfe, principaux bailleurs de l'Égypte, sont pour l'instant toujours plongés dans la guerre. Martin Dumas-Primbault, Le Caire, RFI.
Et au cœur de cette guerre économique, toujours le fameux détroit d'Ormuz. Cette nuit, un porte-conteneur britannique a été endommagé au large des Émirats Arabes Unis. Dégâts provoqués par un projectile inconnu, selon Londres. Des conséquences économiques sur lesquelles nous reviendrons avec Éric Lombard, ancien ministre français de l'économie. Il sera l'invité d'Arnaud Pontus, juste après ce journal.
Et il sera dans notre studio à 7h20. Une guerre populaire en Israël, beaucoup moins aux États-Unis.
93% des juifs israéliens soutiennent les frappes en Iran, selon un sondage publié ce mercredi par l'Institut israélien pour la démocratie. Beaucoup moins de soutien, en revanche, aux États-Unis, où même la base de Donald Trump se montre très critique. Un mécontentement manifesté de longue date par l'ancienne élue ultra-conservatrice Marjorie Taylor Greene, passée d'alliée à ennemie du président républicain. Après avoir démissionné du Congrès fin janvier, son poste était vacant dans l'état de Géorgie, c'est dans le sud-est des États-Unis. Les électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire son remplaçant, scrutin sur lequel pèse très fort la récente guerre au Moyen-Orient. Reportage dans la ville de Dalton de notre correspondant Edouard Maille.
Les électeurs sortent au compte-gouttes devant ce bureau de vote. Matt a voté pour le candidat soutenu par Donald Trump. Il estime que le président a fait le bon choix en attaquant l'Iran.
L'Iran est un problème depuis longtemps et personne n'a jamais voulu s'en occuper et il fait enfin ce qui doit être fait.
Donald Trump a été critiqué par certaines figures MAGA qui l'accusent d'avoir brisé sa promesse de campagne. Pas d'intervention militaire à l'étranger, mais pour Margie qui soutient toujours le président, ce n'est pas le cas.
Il a dit plus aucune nouvelle guerre, mais il a surtout dit plus de soldats sur le terrain pour une guerre. Et il n'y a pas de soldats envoyés pour le moment. Et j'espère que ça restera le cas.
Pourtant, Kimberly, elle, est très déçue de Donald Trump et regrette la guerre contre l'Iran et s'inquiète notamment de l'augmentation récente du prix de l'essence.
C'est triste, car beaucoup de gens vivent avec un revenu fixe. Si le prix de l'essence augmente et que votre famille ne vit pas proche de chez vous, vous n'allez plus pouvoir vous permettre d'aller la voir.
Un sondage récent pour les médias NPR et PBS montre qu'une majorité d'Américains est contre cette guerre, mais que chez les Républicains, la plupart soutiennent une implication militaire dans cette région. Edouard Maille, Dalton en Géorgie. RFI.
Épreuve en est que la guerre est impopulaire. Cette élection, pourtant promise aux républicains, connaîtra bien un second tour. Le démocrate Sean Harris en profite. Il affrontera Clay Fuller, le candidat républicain soutenu par Donald Trump, le 7 avril prochain. Et je vous rappelle que toutes les dernières informations concernant la guerre au Moyen-Orient sont à retrouver sur notre fil en direct. Rendez-vous en une de notre site internet RFI.fr.
RFI. RFI 9h08 à Mogadiscio, la Somalie s'oppose dans les tribunaux à l'administration Trump.
Et ce alors que la fin du TPS est annoncée pour la semaine prochaine. Le TPS, c'est ce programme de protection temporaire qui permet d'accéder plus facilement à un titre de séjour, à un logement, à un emploi. Il est appliqué depuis 1991 pour les Somaliens. Ils sont actuellement un peu plus de 1000 à en bénéficier aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le département américain de la sécurité estime que la situation de la Somalie s'est améliorée. Et face à la suppression de ce statut, 4 Somaliens et 2 associations ont porté plainte. Explication Clotilde Hazard.
Selon le groupe juridique Muslim Advocates, la fin de la protection pour les migrants somaliens est, je cite, « du racisme déguisé en politique d'immigration ». Les plaignants jugent cette décision inconstitutionnelle car elle s'appuie selon eux sur des préjugés et non sur une évaluation objective de la situation dans le pays. En effet, les combats continuent entre les forces somaliennes et les militants Al-Shabaab. La plainte cite aussi une série de déclarations du président américain qui a ridiculisé les Somaliens, les qualifiant de déchets et de personnes à faible QI. En décembre, Donald Trump avait déclaré qu'il voulait les renvoyer, je cite, « d'où ils venaient ». African Communities Together, la plus grande association qui défend les immigrés africains aux États-Unis, mène aussi d'autres procédures judiciaires pour défendre les ressortissants camerounais, éthiopiens et sud-soudanais, près de 12 000 en tout concernés par la fin du statut de protection temporaire. Pour le moment suspendu, le temps que la procédure judiciaire aboutisse, ce qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Clotilde Hazard du service Afrique de RFI. Goma, la plus grande ville du Nord Kivu en RDC, était la cible d'une attaque de drone ce matin. Avant l'aube, on vient de l'apprendre. Selon la FCM-23 qui contrôle la principale cité de l'Est du Congo, au moins 3 civils ont été tués. L'attaque de drone a ciblé une maison du quartier résidentiel Imbi, au cœur de Goma. Parmi les victimes, selon la FCM-23, un membre du personnel de l'UNICEF de nationalité française. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
Compte à rebours lancé en France avant les élections municipales.
Le premier tour, c'est dimanche. Et pour ce scrutin local crucial, à un peu plus d'un an de la présidentielle, eh bien, scrutin victime d'ingérence étrangère. C'est ce qu'avance notamment le candidat insoumis à la mairie de Marseille, Sébastien Delogu. Un deuxième cas en moins d'une semaine, Aurélien Devernois.
Ça a commencé par un blog d'une prétendue ancienne collaboratrice parlementaire. Puis il y a eu une campagne d'affichage, de faux profils sur les réseaux sociaux relayant les accusations et même des personnes se faisant passer pour journalistes tentant de nous faire réagir, se remémore le directeur de campagne de Sébastien Delogu. L'équipe du candidat dépose plainte et transmet en parallèle les documents au journal Le Monde qui détecte des preuves d'une manipulation venue de l'étranger, soupçon confirmé mardi matin par le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangère, Viginum qui y voit même un mode opératoire jusque-là inédit en France. Pas de certitude encore sur l'origine de l'offensive, même si du côté insoumis, les regards se tournent vers des groupes d'influence israéliens, en raison selon eux de leur positionnement sur le Proche-Orient. Viginum, de son côté, est très prudent, estimant devoir encore enquêter avant d'identifier formellement le pays d'émission de l'ingérence. L'affaire intervient 4 jours après une campagne de désinformation venue de Russie, visant le candidat centriste à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel. Pour autant, la campagne des municipales, identifiée depuis des mois comme pouvant faire l'objet d'importantes ingérences, n'a pour l'instant pas connu le tsunami attendu, mais plutôt un flux continu, selon Viginum.
Aurélien Devernois, du service politique de RFI.
Enfin, 15 ans après Fukushima, le Japon veut montrer que le pays a tourné la page.
C'était le 11 mars 2011, au moins 22 000 morts et disparus suite à ce tsunami, suivi du pire accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Le Japon qui veut aujourd'hui montrer que les terres et les eaux de la région de Fukushima sont saines, Bruno Duval.
Dans ce centre commercial de la capitale, les consommateurs se bousculent pour acheter des produits de Fukushima.
Soutenir nos petits producteurs, cela me paraît la moindre des choses, après tout ce qu'ils ont vécu.
À la cantine scolaire, on nous sert souvent du poisson de Fukushima. Je trouve ça très bien.
tombée du train, en se tenant le ventre à deux mains. C'était en 1943 que l'aventure se termina pour Paul Carbone et Ventura, mais plutôt mal comme il se doit pour un truand sans foi ni loi. Et c'est au ramor à Pigalle, un plaque-à-fille de mauvaise vie, que Stéphanie blessa par balle. Angelo, le mafioso, l'a eu de la chance, ce vieux salaud, s'en tirer comme ça sans trop d'accro.
Entre chien et loup, que tombe la nuit, entre chien et loup, que tombe la nuit.
Et c'est au cimetière de Clichy qu'Angelo retrouva Stéphanie, qui sans se méfier se laissait aller à fleurir la tombe d'un ami mort il y a 6 mois déjà d'une méchante petite balle dans le foie. Angelo dit à Stéphanie, oui c'est moi qui ai tué Ventura, mais toi tu as tiré sur moi, mon salaud, tu vas me payer ça. Et il lui logea de son froid une méchante petite balle dans le foie.
Entre chien et loup, quand tombe la nuit, 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 entre chien et loup, quand tombe la nuit. Quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit.
Quand je suis surélevé, je finirai mes jours loin d'ici. American Dream sur les lèvres, je rôde sur Hollywood Boulevard. Je vais encore fumer tous mes dollars. Ici l'apparence a le dos large, mais t'inquiète, on mange hip-hop, ma gueule. Compte sur moi à l'occasion pour faire un moonwalk sur l'étoile de Michael. T'as vu celle de Ali, la seule étoile qui n'est pas au tapis, souviens-toi où t'habites.
T'as vu celle de Ali, la seule étoile qui n'est pas au tapis, souviens-toi où t'habites.
Où les gens font semblant, font du blé avec des wesh, 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 wesh. Je suis le prince de Bel Air, un verre de glace, moi et de l'eau fraîche, fraîche, fraîche.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit,
Californie, Shaquille O'Neal. Décalage horaire mais pas moyen, Chayoli en direct d'Hollywood, moi comme au cinéma. Boys in the hood, dans une Impala. Coupe de Brandel Wash, remonte Beverly Hills. Quelques dollars en poche, sourire d'Eddie Murphy. Je prends personne de haut mais je marche sur des étoiles. Un petit talent sonné qui aggrave la dalle. Je suis là comme dans GTA, posture d'Obama, y'a que des Pamela. Los Angeles, villa business, muscule et grosse caisse, buttocks et grosses fesses. Star et sosie, le char ecstasy. Rien d'impossible, ça danse comme Will Smith. Le prince de Bel Air, les pierres va prendre l'air. Je contemple la vue, assis par terre. Tranquille la vie, à faire la resta. Chirote à Malibu, star la pista. Tout est stylé, meuf épilée, comme dans un film, Axel Follet. Sable et palmiers, ça shoot des paniers. Coucher de soleil, et ça je peux pas nier. T-shirt dans slip, Snoop de Dr. Dre. Qu'on clip ici, c'est ça qu'il faudrait.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit,
mauvais élèves, on repassera notre bac.
J'ai un UCLA.
Viens, on va choper un Camarillo. Faut gâter les gosses, on passe chez Disney. Des tonnes de cadeaux, blinder les balises. Aujourd'hui elle est, demain c'est Belize. À l'année prochaine, si c'est pas la crise.
C'est pas la crise, c'est
mala
pas la
fuck. Crise. Si nos clips agitent le net, comme un sanglier dans le maïs. J'entends ça depuis des kilomètres. Enfin tu voulais dire des maïs.
Je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Sur le DAB+.